Vous écoutez France Musique.
Le matin des musiciens, Arnaud Merlin.
Aujourd'hui, la naissance du bop, première partie, la genèse avec Franck Bergerot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 87e émission du Matin des musiciens du mardi, comme chaque semaine consacrée au jazz. Pour cette deuxième émission de la saison, nous allons ouvrir un diptyque sur la naissance du bop. Cette semaine, nous en évoquerons la genèse et mardi prochain, nous en retracerons l'avènement. Sur le vif à la Libération, les amateurs, notamment en France, ont en effet vécu l'arrivée du bebop comme une véritable révolution, une rupture avec le jazz qui précédait. Et pourtant, lorsque l'on se penche sur l'histoire de cette musique depuis la fin des années 1920 jusqu'au cœur de la Seconde Guerre mondiale, on parvient à reconstituer, pièce après pièce, le puzzle qui conduit à l'éclosion de ce jazz moderne qui puise en réalité constamment aux sources de la tradition. On suivra ce matin l'évolution de la conscience harmonique des improvisateurs, du trompettiste Louis Armstrong au saxophoniste Coleman Hawkins, du pianiste Art Tatum au sextet du contrebassiste John Kirby. On admirera la liberté rythmique du ténor Lester Young, on se réjouira de l'inventivité mélodique du trompettiste Roy Eldridge, l'un des chaînons manquants entre les anciens et les modernes. On réécoutera aussi avec profit quelques passeurs de premier plan, comme le guitariste Charlie Christian. Et bien sûr, on pénétrera dans la nuit des clubs de Harlem avec quelques habitués remarquables, comme le pianiste Thelonious Monk. Au bout de ce chemin, on ne s'étonnera plus de voir surgir le génie des inventeurs du nouveau style, le trompettiste Dizzy Gillespie et le saxophoniste Charlie Parker. Et pour nous guider dans cette histoire complexe de la naissance du bebop, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans cette émission l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du jazz, Franck Bergerot. On lui doit un remarquable ouvrage chez Larousse, le jazz dans tous ses états. Et il est aussi le rédacteur en chef du mensuel Jazz Magazine Jazzman. Bonjour Franck Bergerot.
Bonjour Arnaud.
Le bebop n'est pas arrivé comme ça en un jour. Il faut retracer toute cette histoire. Contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment, ce n'est pas une simple révolution tombée du ciel.
Non, ce n'est pas une révolution tombée du ciel. Et pour faire ce parcours, je dois dire que je me suis aidé d'un ouvrage d'un musicologue américain, Scott Devo, qui a écrit une Birth of Bebop, qui est une naissance du bop, donc. Et je vous propose d'écouter ce bebop tel qu'il est, abouti en 1945.
On remontera dans le temps après.
Oui, ouais. À travers une œuvre qui est un grand classique, qui est sur la première séance d'enregistrement sous le nom de Charlie Parker, c'est Coco. Coco, enregistré donc le 26 novembre 1945. Dizzy Gillespie est présent dans les studios. C'est lui qui va jouer cette partie de trompette qui est vraiment typique du bebop par sa flamboyance, par son énergie. Et...
on l'écoute, mais il faut préciser tout de suite qu'il y a un faux départ. Et dans cette première prise, on va entendre le reste d'une mélodie dont on va identifier la source.
Qui
après.
S'appelle Cherokee, et nous allons voir ce qui se passe lorsque cette mélodie apparaît. Vient d'entendre, ce sont les responsables de la séance, plus exactement le patron de la marque Savoy, Herman Lubinsky, qui fait interrompre la prise parce qu'il vient de reconnaître le thème de Cherokee. Et il a été convenu au début de la séance qu'il n'y aurait pas de morceaux de standard, qu'il n'y aurait que des originaux
pour ne pas payer
de droit d'auteur. Ouais. Et le responsable de la séance, Terry Reg, répond à Herman Lubinsky, le premier nom qui lui vient par la tête, il répond n'importe quoi, il dit c'est Coco. On reprend cette prise, on rejoue cette introduction, mais cette fois-ci, on fait disparaître le thème, on l'escamote.
On improvise
et ça
dessus.
Tombe bien, d'ailleurs, ouais. Parce que c'est un thème assez long, qui fait 64 mesures, et ça permet à Charlie Parker de jouer deux chorus entiers tout à fait extraordinaires et qui sont maintenant rentrés dans les grands classiques du bebop.
Novembre 1945, Coco de Charlie Parker, avec bien sûr le saxophoniste en soliste ainsi que le trompettiste Dizzy Gillespie. On entendait aussi très bien le batteur Max Roach. C'est donc d'une certaine manière l'acte de naissance du bebop, en tout cas sous le nom de Charlie Parker, en 1945. Et quand ces disques, ces enregistrements sont arrivés en France, on dit qu'un certain Django Reinhardt, écoutant cette musique, a dit à ses camarades qui étaient réunis et qui découvraient avec stupéfaction cette nouvelle musique, mais mon frère, c'est Cherokee. Donc il avait identifié le thème, la grille d'accord sur laquelle était construit Coco.
Comme beaucoup de thèmes de bebop d'ailleurs vont être construits sur les harmonies de l'ancien standard avec des titres nouveaux et des mélodies nouvelles.
Ce sont ce qu'on appelle
des démarquages.
Les démarquages dont on parlait avec Jean-Charles Richard à la fin de la deuxième saison de cette émission en juin dernier. Alors Coco, finalement, c'est une rupture, mais on voit que ça s'appuie sur quelque chose.
Oui, alors c'est très paradoxal parce qu'il va y avoir une guerre des anciens et des modernes menée par ce qu'on appellera les figmoisies, les tenants du vieux jazz contre les raisins aigres, les intellos menés par André Oder en France notamment. Les tenants du vieux jazz vont tenir comme l'un de leurs héros Coleman Hawkins. Or, Coleman Hawkins est un précurseur du bop et ils aiment beaucoup chez lui son côté viril, rugueux. Alors que c'est quelqu'un qui joue peu le blues, qui n'est pas du tout enraciné dans cette culture du blues et qui annonce déjà beaucoup d'idées harmoniques du bebop. Alors qu'ils n'aiment pas du tout quelqu'un comme Lester Young. Ils opposent souvent Coleman Hawkins à Lester Young. Alors que Lester Young est certes également un précurseur du bebop, mais d'une autre façon, et que lui, alors, il est totalement enraciné dans la culture du blues, comme quoi tout ça n'est pas très simple, et comme quoi les choses ne sont pas faites comme ça, en un seul tenant.
Alors on va écouter Coleman Hawkins, on va écouter Sy Lester Young au cours de cette émission. La rupture, elle tient peut-être aussi au fait simplement qu'il y a eu la guerre, donc peut-être les Européens étaient coupés aussi de ce qui se passait aux États-Unis, et puis il y a eu une grève également.
Alors, il y a eu la guerre qui fait que oui, pendant 4-5 ans, il n'y a pas de nouvelles du jazz américain, on ne sait pas ce qui se passe, en tout cas en France, et puis ça, cette grève qui éclate le 31 juillet 1942 pour compenser les pertes de revenus dues à la radio.
C'est la grève des enregistrements.
La grève des enregistrements, le syndicat des musiciens lance une grève qui va durer au moins jusqu'en septembre 1943. En septembre 1943, quelques maisons de disques vont céder à la pression du syndicat et définitivement en novembre 1944, RCA et Columbia, les deux grosses majors, vont céder à leur tour et les enregistrements vont reprendre. Mais donc, de 1942 à 1944, on a très peu d'enregistrements et la diffusion de la naissance du bebop va être extrêmement marginale. Alors, le mot bebop aurait été prononcé par Dizzy Gillespie à l'Onyx Club un jour où un journaliste lui dit « Mais c'est quoi ce morceau que tu nous joues ?» Et Dizzy, comme une boutade, lui dit « Ah ben, c'est bebop. » Et ça deviendra le nom d'un morceau. Mais bebop aussi, c'est l'onomatopée qui correspond aux fins de phrases des boppeurs qui souvent se terminent sur le temps faible, donc par deux croches, et c'est bebop. Et puis, cette onomatopée, elle est quand même assez ancienne. On la retrouve en 1939 dans « Taint What You Do » de Ella Fitzgerald, où l'orchestre de Chick Webb répond au final d'Ella Fitzgerald par un retentissant rebop. Et on disait aussi rebop et bebop, c'était un peu synonyme. La même année, l'orchestre de Glenn Miller chante Wham, rebop, boom, bam. Donc on voit que c'est une onomatopée très répandue. Mais dès 1928, dans Four or Five Times des McKinney Conan Pickers, on entend chanter Bebop 1, Bebop 2, Bebop 3.
Bebop 1. Bebop 2, bebop 3, skedaddle-daddy, 4-5 times.
4-5 times! Got to do bebop 2, boop-boop, da-doom, do-do-do-do.
Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da, ba-ba-ba.
Be-do-do-do-da, bebop, da-do-do-da-da, da-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
Wow!
Skedaddle-da-da-da-boop.
Yes, sure, okay.
Da-da-da.
What?
Yes.
Four part-times, four part-times, there is delight.
Four or Five Times, les McKinney Cotton Pickers, en 1928, avec l'apparition du mot bebop ici, dans la voix de Claude Jones, Don Redman, George Thomas et Dave Wilburn. Alors, au-delà du simple mot bebop, il faut retracer cette histoire, peut-être en prenant paramètre par paramètre. On peut peut-être parler déjà de l'harmonie, Franck Bergerot.
Eh bien, on va en parler avec Louis Armstrong, qu'on aurait tendance à faire passer pour un musicien intuitif qui pratique la variation mélodique plus qu'il n'improvise sur l'harmonie. Et en fait, il y a déjà une conscience harmonique chez Louis Armstrong qui est très importante et on vante aussi beaucoup son placement rythmique. Mais il y a vraiment un placement harmonique chez Louis Armstrong. Et on va s'en rendre compte avec une composition interprétée par l'orchestre de Fletcher Anderson, Mandy Make Up Your Mind, où Louis Armstrong prend un fameux solo de trompette qui a été abondamment commenté par le musicologue Gunther Schuller.
Le solo de Louis Armstrong sur Mandy, Make Up Your Mind, de l'orchestre de Fletcher Anderson. Alors, on peut peut-être analyser un petit peu plus à l'intérieur de ce solo, Franck.
Alors, Gunther Schuller souligne tout particulièrement dans ce solo deux mesures au cours desquelles se succèdent quatre accords dominantes. Et il souligne comment Louis Armstrong, sur ces quatre accords dominantes qui se succèdent très rapidement, la façon dont Louis Armstrong franchit ce moment un petit peu difficile avec une grande aisance en syncopant les notes de l'accord et en ornementant chacune de ces notes par des notes qui sont complètement en dehors de la mélodie. Et tout ça passe comme une lettre à la boîte.
« Voilà ce passage négocié avec une grande habileté et une grande conscience harmonique. Déjà, c'est Louis Armstrong qui avait une formation académique relativement faible par rapport à la génération qui a suivi. Louis Armstrong, donc déjà conscient d'un rythme harmonique, d'une manière d'improviser sur les harmonies et pas seulement de paraphraser la mélodie. Et il y a quelqu'un qui va vraiment profiter de cet acquis, c'est Coleman Hawkins, qui aura un peu pour modèle Louis Armstrong, d'une certaine manière.
Oui, tous les musiciens de Fletcher vont être très impressionnés. Après avoir pris Louis Armstrong pour un pecno qui arrivait du Sud, ils vont tous être très impressionnés par cette maîtrise de la construction d'un solo, notamment l'arrangeur Don Redman et Coleman Hawkins, évidemment, qui va en prendre de la graine. Avec Louis Armstrong, ils découvrent un nouveau langage. Louis Armstrong et Hawkins sont, parmi leurs idoles, le chanteur Caruso. Précision, clarté, contrôle du registre supérieur, et puis la puissance. Pour Coleman Hawkins, la puissance de jeu de Louis Armstrong va faire modèle, et l'on dit qu'il lui est même arrivé de remplacer dans la section de trompette Russell Smith, qui était le premier trompette, avec son saxophone ténor, qui est quand même un instrument beaucoup moins volumineux.
Alors on l'entend ici dans une petite introduction.
Cette introduction, elle est intéressante parce qu'elle nous donne un Coleman Hawkins extrêmement lyrique et qui pourrait faire penser aux grandes soprano coloratour de l'époque, ouais, ou un Yasha Effet, si à ce côté très très virtuose et en même temps très lyrique, qui s'exprime beaucoup dans les introductions chez Coleman Hawkins.
Un lyrisme très ornementé chez Coleman Hawkins en 1929 au sein des Mound City Blowers. Coleman Hawkins, qui est aussi un compositeur intéressant, il en fait profiter d'ailleurs l'orchestre de Fletcher Anderson avec des harmonies assez sophistiquées pour l'époque.
Oui, alors il a été marqué par la rencontre d'Art Tatum également. Coleman Hawkins est pianiste à l'origine, a joué du violoncelle, connaît la musique de Debussy, et c'est ce qui va lui inspirer Queer Notions, qu'il compose en 1933 pour l'orchestre de Fletcher Anderson. Ce qui est amusant dans ce morceau, c'est qu'il y a un musicien complètement à l'aise, c'est Henry Red Allen, qui lui est un disciple total de Louis Armstrong, mais qui est un peu le chaînon manquant entre Louis Armstrong et un trompettiste dont on parlera tout à l'heure, Roy Eldridge. Et Coleman Hawkins, qui lui est beaucoup plus contraint rythmiquement, avec un vibrato qui finalement est un petit peu daté. On a là deux musiciens qui gèrent cette composition modernistique de façon complètement différente.
Thank you.
Queer Nations, une composition de Coleman Hawkins pour l'orchestre de Fletcher Henderson en 1933. Les solistes, c'était bien sûr le saxophoniste Coleman Hawkins lui-même et le trompettiste Henry Red Allen. 1933, on voit déjà le style de Coleman Hawkins se profiler et puis surtout, Coleman Hawkins va faire fructifier cette connaissance, cette science harmonique dans les années qui vont suivre. On peut, à ce stade de cette émission, comparer son style avec celui de Lester Young en prenant un même thème, en prenant The Man I Love de George Gershwin, qu'ils ont enregistré tous les deux. Lester Young a une autre façon d'improviser par rapport à Coleman Hawkins. Ce n'est peut-être pas les mêmes ressorts harmoniques.
Oui, d'ailleurs, peut-être peut-on raconter cette anecdote de leur rencontre à Kansas City, puisqu'il y a eu une bataille historique qui d'ailleurs n'a peut-être pas eu lieu. Un jour, Coleman Hawkins s'est passé en ville à Kansas City avec l'orchestre de Fletcher Henderson. Il est descendu au Cherry Blossom où jouait l'orchestre de Count Basie et là, il s'est trouvé face à une phalange de saxophonistes qui n'en avaient qu'une idée, c'était d'en découdre avec Coleman Hawkins. Dick Wilson, Herman Walder, Lester Young, Herschel Evans et Ben Webster. Et ils se sont mis à jammer et comme Coleman Hawkins en avait l'habitude dans ce genre d'occasion, il s'est mis à décliner les tonalités les plus difficiles. Et quand tout le monde a été bien épuisé, il n'est plus resté que Lester et Coleman Hawkins face à face. Et on a réveillé dans la nuit Mary Lou Williams, qui était la seule pianiste capable de relever le défi et qui a terminé
ce buff historique
qui s'est terminé, dit-on, par la défaite et la fuite de Coleman Hawkins. Donc il y a chez Coleman Hawkins quelque chose qui peut paraître daté, qui relève peut-être du rythme, qui relève d'une espèce de boulimie qui lui fait manquer une dimension de la musique qui est le sens de l'espace. Et on va s'en rendre compte dans la comparaison justement entre ces deux versions de The Man I Love où Coleman Hawkins est complètement omnubilé par l'harmonie dont il escalade et dégringole les arpèges, en oubliant complètement la dimension mélodique du thème. Il ne joue pas le thème, il oublie les paroles, il oublie que c'est l'homme que j'aime, The Man I Love, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Il est tellement haletant dans sa boulimie de dire l'harmonie que l'ingénieur du son, à un moment, doit lui faire signe que c'est fini. Et donc, il va jusqu'au bout de son chorus et il s'arrête sans même qu'il y ait la moindre coda, le moindre retour à l'exposé. Sa seule préoccupation, c'est la déclinaison des accords.
Thank you.
Lemon I Love de George Gershwin par le quartet du saxophoniste Coleman Hawkins, avec au piano Eddie Wood, à la contrebasse Oscar Pettiford et à la batterie Shelly Manne. C'était en décembre 1943, une attaque effectivement très virile, une façon d'envisager la mélodie très harmonique. On travaille ici vraiment sur les accords du thème de George Gershwin. Avec les Star Young, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est très différent. Autant Coleman Hawkins est totalement indifférent à la culture de blues, autant Lester Young était enraciné dans cette culture, puis il est enraciné aussi dans la culture du riff, qui est une culture où on joue sur des motifs immuables, alors que les accords changent en dessous. Et donc il y a une façon de choisir souvent des motifs assez simples. Sur chaque accord, les degrés de ces motifs prennent une signification différente, prennent une fonction différente, et toute la modernité de Lester Young va venir de ça. C'est une modernité qui est totalement mélodique, et lorsqu'il joue The Man I Love, il joue la mélodie, et il joue une chanson, et il joue L'homme que j'aime. Et tout ça avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'espace, avec beaucoup de discontinuité, ce qu'il n'y a pas chez Coleman Hawkins.
Mm-hmm.
The Man I Loved de Gershwin, cette fois-ci dans l'interprétation du saxophoniste Lester Young avec au piano Nat King Cole et Buddy Rich à la batterie. C'était en 1946. Un tempo extrêmement différent, beaucoup plus proche de la ballade ici, Frank Bergerow, et puis un vibrato, une expressivité très différente aussi de Coleman Hawkins.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui peut rendre le son de Coleman Hawkins un petit peu archaïque, c'est que ce vibrato très régulier, très rapide, va tomber en désuétude avec le bebop, alors que chez Lester Young, le vibrato n'est plus qu'une espèce de nuance qui est très libre, en fait, et qui est beaucoup plus moderne. Par ailleurs, il y a donc ce sens de l'espace qui est vraiment très très beau, et puis ce refus de remplir un contrat harmonique du type de ceux auxquels se contraint Coleman Hawkins. Lester Young n'était pas friand d'en savoir trop sur l'harmonie des morceaux, mais toute sa richesse harmonique, toute sa modernité repose sur cette ambiguïté qui lui vient du blues, ce rapport ambigu à la mélodie, par opposition aux arpèges en montagne russe de Coleman Hawkins. Il y a une espèce de simplicité qui est en fait très très moderne, et on la découvre là dans un solo célèbre, Lady Be Good, avec l'un des premiers orchestres enregistrés de Count Basie, et c'est un morceau que Charlie Parker va faire tourner en boucle sur son lecteur de 78 tours pour en apprendre le solo.
Lady Be Good de George Gershwin, enregistré en 1936 par Lester Young aux côtés du pianiste Count Basie, un disque de chevet pour le tout jeune Charlie Parker qui a 16 ans à l'époque.
Alors revenons à Coleman Hawkins, puisque Coleman Hawkins en 1934 embarque vers l'Europe, et on peut l'interpréter comme une espèce de fuite après cette défaite de Kansas City face à Lester Young, mais on peut aussi l'interpréter comme une fuite des conditions de travail des jazzmen, c'est-à-dire qu'en Europe, il est accueilli dans des grandes salles de concert comme un concertiste. Lorsqu'il revient le 1er août 1939, c'est un homme neuf qui débarque aux États-Unis. Il voudrait constituer une espèce de all-star, où il voudrait notamment avoir la nouvelle star de la trompette, Roy Eldridge, mais on est en pleine bulle spéculative sur les talents des solistes, et ils sont devenus très très chers. Il ne peut pas réunir ce all-star. Il va se contenter d'un orchestre de faire-valoir qui se produit à partir du 5 octobre au Kelly Stable, et qui rentre en studio le 11 octobre, donc on est en 1939, pour enregistrer un célèbre Body and Soul. Coleman Hawkins y joue à peine la mélodie, et c'est un morceau absolument sans concession qui met en valeur exclusivement le soliste à une époque où les solistes n'étaient souvent que les faire-valoir des orchestres. Et puis, dans cette interprétation, arrive un événement harmonique qui va faire fureur chez les boppers, c'est la substitution tritonique. Il s'agit en fait d'une succession de trois accords, l'accord du deuxième degré, ré mineur si on est en do, l'accord du cinquième degré, sol 7, pour revenir à do. La substitution tritonique consiste à remplacer l'accord de dominante par un accord qui est un triton au-dessus. Par exemple, si on joue sol 7, eh bien à la place, on va jouer ré bémol 7. Et ça permet de faire une descente chromatique ré, ré bémol, do. « Et ce qui va ouvrir des tas de possibilités, notamment au bassiste, qui au lieu de jouer quelque chose qui ressemble un peu au pimpon des pompiers, ça va leur permettre de jouer quelque chose de beaucoup plus chromatique. Ce principe de la substitution tritonique, on va le retrouver dans Body and Soul, et ensuite abondamment dans le bebop.
octobre 1939, Body and Soul, enregistré par l'orchestre de Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, seul soliste ici d'un bout à l'autre de cette interprétation, c'est lui le maître, Franck Bergerot.
Cette substitution tritonique, Coleman Hawkins, ce n'est pas le premier à l'utiliser dans Body and Soul, puisque l'année précédente, Clyde Hart, le pianiste Clyde Hart, l'a utilisé dans l'interprétation de Chu Berry. Mais Chu Berry n'entend pas cette substitution, il ne la joue pas.
Il continue à jouer sur les harmonies classiques.
Sur les harmonies classiques. Mais peu à peu, un certain nombre de pianistes, comme Clyde Hart, justement, ou comme Kenny Kersey, ou comme Billy Kite, vont commencer à manipuler ces harmonies et à les transformer. Et ça va devenir le pain béni des turbopper. Et notamment, Billy Kyle, dans l'orchestre de John Kirby, va transformer la mélodie de I Got Rhythm, le grand standard, qui est l'archétype du standard
ce qu'on
jazz,
appelle l'anatole en français.
Ce qu'on appelle l'anatole. Il va en transformer les quatre premières mesures, qui sont faites d'une série d'accords tout à fait classiques, une cadence. Et à la place de ces quatre accords, qui sont quatre moments de la tonalité de Do, eh bien, Billy Kyle va remplacer une promenade à travers huit tonalités différentes. en passant par les accords de La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol pour aboutir à Do. Billy Kyle va titrer ce démarquage de I Got Rhythm From A flat to C, ce qui défie de La bémol à Do, ce qui fait de ce morceau un véritable manifeste harmonique.
Ce qui est intéressant, Franck Bergerot, c'est que cette suite harmonique de La bémol à Do, on va la retrouver aussi dans d'autres contextes, puisque finalement ça peut s'appliquer à tous les anatoles du monde, si je puis dire.
Oui, ça va être utilisé dans une foule de thèmes par Thelonious Monk, par Duke Jordan dans le thème Jordu, par J.J. Johnson dans Turnpike, et on va le retrouver dans la grille d'I Got Rhythm dès 1944, sous les doigts d'Art Tatum, qui évidemment n'en a rien perdu.
Le trio du pianiste Art Tatum avec Tiny Grimes à la guitare et Slam Stewart à la contrebasse en janvier 1944, une façon de jouer I Got Rhythm en le réharmonisant d'après le From A flat to C, le La bémol à Do de John Kirby signé par le pianiste Billy Kyle. Donc une manière d'harmoniser beaucoup plus riche qui va conduire au bebop. Mais on sait que Art Tatum avait déjà antérieurement assimilé ces nouveautés harmoniques.
Et d'ailleurs, nous retrouvons Art Tatum non plus en 1944, mais en 1940, et on le voit ici jongler avec les harmonies d'I Got Rhythm en multipliant les chromatismes. Et cette façon de jouer I Got Rhythm, probablement Charlie Parker l'a-t-il entendu lorsqu'il faisait la plonge au Chicken Shack, alors que Art Tatum en était le pianiste. Thank you.
La fabuleuse virtuosité du pianiste Art Tatum en 1940 sur ce I Got Rhythm de George Gershwin. Franck Bergerot, il n'y a pas que Art Tatum à être moderne dans sa génération. Il y a d'autres chaînons manquants, d'autres maillons de la chaîne pour divers instruments. On a cité tout à l'heure Henry Red Allen à la trompette, après Louis Armstrong. Et avant Dizzy Gillespie, qui va être le grand prêtre du bebop à la trompette, il y a un musicien entre ces deux générations, c'est Roy Eldridge, qui est un moderne aussi, d'une certaine manière.
Il fait partie d'une génération de trompettistes qui est fascinée par la fluidité des saxophonistes. Et à partir de Henry Red Allen, qu'on a entendu tout à l'heure, à Roy Eldridge, on a vraiment des trompettistes qui s'appliquent à transposer sur la trompette la virtuosité des saxophonistes, cette fluidité qui est propre au jeu des saxophonistes. Et là, on va l'écouter dans un de ses grands tubes, c'est Heckler's Hope.
Formidable solo de Roy Eldridge en 1937. Ce n'est pas encore du bebop, ce n'est pas encore Dizzy Gillespie, mais Roy Eldridge va se mêler à la jeune génération pendant les années de guerre, Franck Bergerot.
Oui, et nous allons l'entendre au Minton's Playhouse en mai 41. Le Minton's Playhouse est le repère des jeunes boppers et au piano, nous avons Thelonious Monk qui l'accompagne ici sur Body and Soul. Thank you.
18 mois après le Body and Soul enregistré par Coleman Hawkins en octobre 1939. Ici, nous étions en mai 1941 au Minton's, l'un des clubs new-yorkais. Et c'était bien sûr le trompettiste Roy Eldridge, accompagné de manière très sobre ici par le jeune Thelonious Monk. Roy Eldridge qui, effectivement, a déjà tout assimilé sur le plan harmonique.
Oui, il a assimilé énormément de choses et c'est pour ça qu'on le retrouve ici avec la jeune génération au Minton's, avec effectivement un Monk encore assez timide dans ses accompagnements.
Il faut dire qu'il est né en 1911, Roy Eldridge, hein, c'est pas la génération d'Armstrong, c'est vraiment celle d'après.
Oui, c'est une
Il est plus proche des Bopper.
Oui, c'est une génération intermédiaire. Et nous sommes donc au Minton's Playhouse, qui a été ouvert en 1938 par le saxophoniste et syndicaliste Henry Minton. C'est un club qui est mitoyen d'un hôtel qui sert de résidence aux musiciens de passage. Et donc, ça va devenir un rendez-vous des boppers à partir de 1940, lorsque la programmation en est confiée à Teddy Hill. Teddy Hill, c'est un chef d'orchestre qui vient de virer Kenny Clarke de son orchestre, le jeune batteur Kenny Clarke, parce qu'il lui reproche de lancer des bombes dans les pieds des danseurs et de les gêner. En effet, Kenny Clarke a appris à jouer de la batterie en étudiant les scores des grands orchestres pour voir où placer un jeu polyrythmique. Et ça, ce dialogue entre la partie orchestrale et la batterie va devenir une caractéristique du bebop. Et ce jeu polyrythmique lui vaudra son surnom de Klook Mop. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'après avoir viré Kenny Clarke de son orchestre, lorsqu'il se fait confier la programmation du Minton's, eh bien, il appelle Kenny et il lui dit « Je te veux comme chef d'orchestre du club. Tu pourras balancer toutes les bombes que tu veux, tous les ribop et les boom-bam que tu voudras. Ici, tu pourras faire tout ça. »
Bah oui, parce qu'il n'y a pas de danseur. Là, on est entre musiciens.
On est entre musiciens. On est dans un véritable laboratoire du bebop et fréquente ce laboratoire à l'époque le guitariste Charlie Christian. Et nous allons l'entendre ici avec Kenny Clarke, lançant des bombes assez discrètes, il faut bien le dire, parce qu'ici, il est au ballet. Mais nous avons là une trace exceptionnelle du jeu de Charlie Christian sur de très longs chorus avec Kenny Clarke en 1941. Thank you.
un tout jeune guitariste, Charlie Christian, ici en soliste au Minton's Playhouse en mai 1941. Il va disparaître quelques mois plus tard, au début de l'année 1942, de maladie. Charlie Christian, qui était le guitariste qui allait faire la jonction avec le bebop, Frank Bergeron.
Oui, il a grandi à Oklahoma City, il a connu les grandes formations qui circulaient dans les plaines du centre. Il a subi l'influence de Lester Young très très évidemment. Et en 1939, il est remarqué par John Hammond qui le présente à Benny Goodman. Ça devient la principale attraction même de l'orchestre de Benny Goodman. Et lorsque Benny Goodman s'installe à New York en résidence en 40-41, eh bien, Charlie Christian va se précipiter au Minton où il va acheter un deuxième ampli pour... dès que les concerts de Benny Goodman se terminent, il file au Minton's After Hours, comme on dit.
Après les heures de travail.
Et il peut se brancher directement sur ce deuxième amplificateur. Le Minton's est ouvert jusqu'à 4 heures du matin et c'est vraiment le lieu de rendez-vous. D'ailleurs, Teddy Hill, le programmateur, fera manger aux musiciens à l'affiche de l'Apollo les jours de relâche le lundi, ce qui lui amène beaucoup de monde. Et là, il y a une équipe, un noyau dur, autour de Kenny Clarke, Joe Guy à la trompette, Nick Fenton à la basse, Thelonious Monk au piano.
Ou Kenny Kersey, selon les cas.
Et Thelonious Monk, là, commence à faire connaître ses premières compositions, Well You Needn't, Epistrophe, Round Midnight, etc. Et Joe Guy va faire connaître ses partitions de Thelonious Monk à Cootie Williams, le trompettiste qui vient de quitter Duke Ellington pour monter son propre orchestre. Et c'est Cootie Williams qui va créer Round Midnight en janvier 1944. Mais dès avril 1942, il enregistre Épistrophie sous le titre Fly Right. Le pianiste est Kenny Kersey et le trompettiste soliste est Joe Guy. Et vous allez voir que c'est un trompettiste beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît quand on lit la biographie de Billie Holiday, puisque ça a été un des maris indignes de Billie Holiday.
Le trompettiste est Joe Guy et le pianiste Kenny Kersey en soliste ici de l'orchestre de Cootie Williams qu'on entendait exposer le thème Fly Right, autrement dit Épistrophie de Thelonious Monk. C'était en 1942. On n'entendait pas Monk ici, mais on l'entend régulièrement au Minton et il y a des enregistrements où on l'entend pas si mal, Frank Bergeron.
Oui, grâce à Jerry Newman qui était un passionné qui disposait d'un système d'enregistrement et qui fréquentait le Minton's et aussi un autre club, le Clark Moon Rose, où Bud Johnson disait que les musiciens venaient pour s'y battre comme des chiens. Dans ces deux clubs, donc, on va avoir des témoignages grâce à Jerry Newman, et nous allons nous pencher sur la musique de Thelonious Monk, qui va très vite s'avérer beaucoup trop moderne pour les boppers. C'est un musicien un peu qui inquiète. Et en fait, Thelonious Monk ne connaîtra ses véritables interlocuteurs que dans les années 50. Et avant le milieu des années 50, c'est un musicien un peu marginal. On l'entend cependant dans Nice Work, If You Can't Get It. Et vous allez voir qu'il ne mène pas la vie facile au chanteur Joe Guy lorsque celui-ci se met à chanter la mélodie de Gershwin.
Nice Work If You Can Get It de George Gershwin avec Thelonious Monk au piano et Joe Guy, le trompettiste que l'on entendait aussi chanter. C'était en mai 1941. Thelonious Monk, il a 24 ans, Franck Bergeron.
Oui, et c'est déjà bien Thelonious Monk, c'est-à-dire qu'il n'accompagne pas vraiment. Il joue la mélodie, il ne la joue pas, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Et Dizzy disait, si vous jouiez avec Monk un morceau dont vous ne connaissiez pas les accords, alors vous pouviez aller vous faire voir, car il ne jouait jamais les accords. Coleman Hawkins, toujours téméraire, lui engagera le premier Thelonious Monk dans son orchestre en 1944. Et d'ailleurs, le jeune Miles Davis, qui débarque à New York à cette époque-là, ira souvent écouter l'orchestre de Coleman Hawkins pour noter sur des pochettes d'allumettes les accords qu'il entend et pour espionner la façon dont Thelonious Monk réharmonise des morceaux. Et là, on va écouter juste le début de Drifting on a Reed par Coleman Hawkins, et c'est Thelonious Monk qui l'introduit, et dans cette introduction, on entend sa composition « Ask Me Now ».
Mm-hmm.
Décembre 1944, Coleman Hawkins embauche le jeune pianiste Thelonious Monk, le Trublion. Alors parmi les habitués du Minton's ou du Monroe's, Frank Bergerow, il y a aussi un jeune trompettiste très excentrique. Il s'appelle Dizzy Gillespie, précisément parce qu'il est excentrique.
Oui, il est tout à fait excentrique. Il est né en 1917 à Sherrow, en Caroline, fils d'un chef d'orchestre de bal amateur. Il a un professeur pianiste qui ne sait jouer qu'en si bémol. Et comme ça arrivera souvent chez ces jeunes musiciens de jazz qui sont des autodidactes, comme ça arrivera à Charlie Parker, eh bien un jour il sera humilié parce que on lui propose de jouer Nagasaki en do. Il ne sait le jouer qu'en si bémol. Et il va se mettre là au travail, il va étudier la tonalité, il va étudier les accords, il va étudier le piano. Et ça va devenir vraiment le spécialiste de l'harmonie bebop. Sa famille déménage à Philadelphie en 1935 et il entre rapidement dans l'orchestre de Frankie Fairfax, dont la spécialité notamment était de jouer Buddy and Soul dans tous les tons, en montant d'un demi-ton à chaque chorus. Et cette idée de jouer dans toutes les tonalités, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage des boppers. On l'a vu chez Coleman Hawkins, qui va prendre l'habitude, lui aussi, de jouer dans un certain nombre de tonalités, et notamment de Body and Soul. Après le succès du disque, il va prendre l'habitude de moduler régulièrement. On trouvera ça chez Charlie Parker, qui va étudier le blues en le modulant dans toutes les tonalités possibles. En 1937, Dizzy Gillespie arrive à New York, travaille chez Teddy Hill, voyage en Europe d'ailleurs avec Teddy Hill, puis il rencontre Kenny Clarke, qu'il fait rentrer dans l'orchestre d'Edgar Hayes, et au sein de cet orchestre, il devient vraiment l'enfant terrible, et là on retrouve le vrai Dizzy, riant de ses erreurs, s'asseyant par terre pour jouer, ou alors, pendant un solo, se dirigeant vers le pianiste chef d'orchestre et le virant du clavier pour jouer ses propres accords tout en chorussant. Et ensuite, il va rentrer chez Cab Calloway en 1939, et c'est là qu'on va l'entendre dans son premier arrangement, Picking the Cabbage, dont il dit « Si vous écoutez attentivement ma partition et mon solo, vous entendrez les prémices de quelques-unes de mes pièces à venir comme Night in Tunisia et Manteca. »
Mars 1940, les débuts de Dizzy Gillespie comme compositeur-arrangeur ici pour l'orchestre de Cab Calloway, ça s'appelait Picking the Cabbage. Alors Frank Bergerow, on vient de retrouver Dizzy Gillespie qu'on avait croisé au tout début de cette émission. Il y a un personnage que nous n'avons pas encore revu, c'est Charlie Parker tout simplement.
Alors qu'il va rencontrer en tournée à Kansas City lorsqu'il est dans l'orchestre de Cab Calloway. Il va très vite être renvoyé de l'orchestre de Cab Calloway, trop excentrique, notamment sur le plan harmonique, puisque régulièrement il entraîne le contrebassiste de l'orchestre sur le toit du Cotton Club pendant les entractes pour étudier la quinte diminuée. Et cette quinte diminuée, qui va devenir l'obsession des boppeurs, elle passe encore très mal, elle est encore mal dégrossie, son usage est difficile, et régulièrement, Cab Calloway se plaint de ce qu'il appelle ses chinoiseries, et ça va se terminer très mal. Mais entre-temps, effectivement, il aura rencontré Charlie Parker. Charlie Parker est né en 1920, à Kansas City, qui est la ville de la jam session. C'est une ville qui vit la nuit avec énormément de lieux de plaisir sous une municipalité passablement corrompue et une économie d'ailleurs de la musique qui est assez précaire. On n'a pas des très gros clubs, des très beaux clubs comme à New York, mais ce sont des petits lieux où on pratique une façon de composer qui est le head arrangement, l'arrangement de tête, à partir de riff. Et pour Charlie Parker, c'est le lieu idéal pour aller jammer, et plusieurs fois, il va se faire y conduire, parce qu'il ne connaît pas ses tonalités. Et un jour, notamment, il recevra à ses pieds la cymbale de Joe Jones, alors qu'il veut improviser avec les musiciens de l'orchestre de Count Basie. Ce sera une grande humiliation, et là, comme pour Dizzy Gillespie, il va se mettre au travail, il va étudier les solos de Lester Young, il va travailler l'harmonie, il va travailler avec un personnage intéressant qui est Buster Smith, le saxophoniste, qui est le maître du riff. C'est lui qui a fait de l'orchestre de Count Basie un spécialiste du riff, en exigeant des nouvelles recrues qu'elles apprennent à inventer des riffs et à les harmoniser. Et c'est ce travail sur l'harmonie des riffs qui va servir d'éducation à Charlie Parker. Et là, on retrouve cette idée encore de la conduite de voix avec une conception très mélodique de l'harmonie. Nous allons entendre un premier enregistrement en 1940 de Charlie Parker qui a été réalisé dans une cabine pour enregistrement privé, un enregistrement assez difficile, où il enchaîne « Honeysuckle Rose » et « Body and Soul ». Et cette « Honeysuckle Rose » va nous évoquer Lester Young, et c'est pour ça que nous allons commencer par écouter « Honeysuckle Rose » par Lester Young, enregistré lors d'une grande jam session à Carnegie Hall le 16 janvier 1938.
Le solo de Lester Young en janvier 1938 à Carnegie Hall sur le Honeysuckle Rose de Fats Waller, une façon de faire qui inspire probablement le tout jeune Charlie Parker lorsqu'il s'enregistre lui-même sur ce même thème en 1940. Thank you. Honeysuckle Rose de Fats Waller par Charlie Parker sous l'influence de Lester Young, un Charlie Parker qui ne néglige pas non plus l'influence de Coleman Hawkins, en témoigne cet enchaînement avec Body and Soul, bien sûr inspiré lui par Coleman Hawkins. Body and Soul, précédé de Honeysuckle Rose. On voit bien ici la double influence, Lester Young d'un côté et Coleman Hawkins de l'autre. C'est ce tout jeune Charlie Parker au printemps 1940. Il a tout juste 20 ans, Frank Bergerow.
Il a tout juste 20 ans et bientôt il va être engagé dans l'orchestre de Jim McShann, qui est un orchestre typique de Kansas City, dont les arrangements, qui sont des arrangements de tête, reposent sur la technique du riff. Et Charlie Parker va s'y trouver totalement chez lui, tant et si bien que le premier alto, John Jackson, lui cède la place lorsqu'il s'agit de riffs. Les riffs de l'orchestre de J. McShann sont conduits par Charlie Parker. Ici, on l'entend dans Pootie Blues.
Well, I'm doing all right. Found me a Cupid doll. Well, I'm doing all right. Found me a Cupid doll. She lives two flights up, and she sends me with a smile. Well, she calls me her lover, well, and a beggar too. Yeah, she calls me her lover, well, and a beggar too. Ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you?
Un extrait de Hootie Blues, l'orchestre de J. McShann en avril 1941, au sein duquel on trouve le jeune Charlie Parker qui va devenir le héros de ce nouveau style, le bebop, Frank Bergerow, dont nous reconstituons ici la genèse. La semaine prochaine, deuxième émission de ce diptyque, ce sera l'avènement du bebop. Tous ces éléments vont devenir un style finalement.
Vont devenir un style grâce justement à l'installation de Charlie Parker à New York, où il retrouve son ami Dizzy Gillespie, qui va devenir son ami. Ils se sont jusque-là trouvés des affinités lors d'une jam session à Kansas City. Et Charlie Parker, nous allons le retrouver ici en 1942, au Clark Monroe's. On a parlé jusque-là du Minton. C'est bien, le Clark Monroe's était un petit peu l'équivalent, mais avec une autre équipe qui était emmenée par un jeune pianiste de 19 ans, le pianiste Alan Tinney. Alan Tinney qui avait rassemblé de jeunes musiciens autour de lui, dont notamment le saxophoniste baryton Cecil Payne, qu'on va retrouver beaucoup dans le bebop, le contrebassiste Leonard Gasking et le batteur Max Roach. Et ce noyau dur impose une discipline aux musiciens qui venaient de jamais pour choisir des morceaux aux progressions intéressantes avec des pièces comme Cherokee, Oh High the Moon et les premiers démarquages.
Alors Cherokee, on en a parlé au tout début de cette émission puisque c'est ce qui va donner Coco de Charlie Parker.
Et nous allons entendre cette fois-ci, encore une fois, Cherokee par Charlie Parker en 42 avec un orchestre du Clark Monroe's dont on ne connaît pas exactement le personnel, mais on peut supposer que Alan Tinney, le titulaire, est au piano. Thank you.
Merci beaucoup, Franck Bergerot, d'être venu ce matin dans cette émission pour évoquer la genèse du bebop. Merci à Pierrick Charles et Stéphane Touvenin pour la prise de son. Cyril Mordant a accordé le piano. Dorothée Goll m'a aidé à préparer cette émission que Christine Amado réalise comme chaque semaine. La semaine prochaine, la suite de cette naissance du bebop avec Franck Bergerot toujours. Bien sûr, soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. Demain, c'est mercredi. Dans le matin des musiciens, vous avez rendez-vous avec Philippe Cassard. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur francemusique.fr, c'est le site de France Musique. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.